Bon, je vais être le dernier petit goût de la soirée. Merci. Voilà. Alors, ça va peut-être vous paraître un peu présomptueux, mais on pense que dans une journée consacrée à l'innovation, ça n'était pas complètement artificiel ni prétentieux de parler de l'IPSEM en tant qu'exemple d'innovation dans le champ de la formation, en particulier la formation à l'éducation thérapeutique. Rémi Gagnère et moi sommes des universitaires, comme beaucoup d'autres, mais c'est assez rare que des universitaires sortent du confort très relatif de leur laboratoire pour se prendre le risque de se lancer dans une opération quand même d'envergure nationale. C'est pourtant ce que nous avons fait. Nous l'avons fait il y a 19 ans. Et donc on aura, je ne sais pas, au printemps, là je crois qu'on aura 20 ans. Bon. Et on l'a fait à la suite d'ailleurs d'un colloque qu'on avait organisé à l'école polytechnique. Voilà, c'était ça le programme du colloque. La participation du patient à son traitement, hein, vous voyez, 22 mars 91. Et ça nous avait fait beaucoup réfléchir. Bon, on était déjà branchés sur cette problématique de l'éducation du patient. On appelait ça l'éducation du patient à l'époque. Mais à la suite de ce colloque, on s'est dit que si l'éducation thérapeutique représentait une nouvelle pratique de santé, cette pratique ne serait reconnue à l'échelon national qu'à plusieurs conditions. Donc la première, là, j'ai entrelardé ça d'images anciennes de l'IPSEM, d'anciens catalogues. Voilà. Bon, la première condition, c'est qu'il fallait concevoir un modèle éducatif qui soit réaliste et applicable par tous les soignants. Parce que c'était facile, je veux dire, pour des universitaires, de construire un modèle très sophistiqué, mais que seuls peuvent comprendre. Il fallait au contraire créer un modèle pédagogique que les soignants reçoivent comme quelque chose qu'ils pouvaient mettre eux-mêmes en application et très rapidement. Par contre, ce qu'il fallait, c'était alimenter cette pédagogie du patient par des recherches scientifiques. C'est-à-dire, il fallait essayer de l'améliorer constamment, et on ne pouvait l'améliorer que par la recherche. Puis en plus, c'est normalement le boulot des universitaires que de créer le savoir et après de le diffuser. Alors, à propos de recherche scientifique, je reviens sur la revue éducation thérapeutique, parce que j'ai oublié de dire une chose importante. J'ai dit que c'était la revue de la SET, la Société d'éducation thérapeutique européenne. Mais j'ai omis, je le regrette, j'ai rattrapé ça, j'ai omis de dire que ça serait également très soutenu par l'IPSEM. Voilà, ça je l'ai dit. Voilà, donc, au fond, dans ce nouveau champ, il y a deux choses. Il y a la recherche fondamentale, la recherche appliquée, puis il y a les pratiques. Donc il fallait, en même temps qu'on se lançait dans une formation, dans des formations nationales, il fallait organiser des colloques, il fallait diffuser les recherches, il fallait diffuser les pratiques. Et la journée d'aujourd'hui est un très bel exemple, je dois dire, très réussi, m'a-t-il semblé, une alternance de recherche avec des fois des résultats exprimés statistiquement, puis en même temps des pratiques qui ont été réfléchies et évaluées. Enfin, il ne fallait pas simplement faire de la formation, il ne fallait pas simplement proposer un modèle alimenté par une recherche, il ne fallait pas simplement, à travers les journées de l'IPSEM, qui ont été pendant très très longtemps les seules manifestations en France sur le thème de l'éducation thérapeutique, il ne fallait pas simplement diffuser, je dirais, et toutes ces expériences et ces réflexions, il fallait également promouvoir ce concept. Et on a fait un lobbying. Je ne sais pas si je le referai. En tout cas, c'est 20 ans de lobbying. C'est 20 ans de conférences ici ou là, de participation à des groupes de travail, à tous les groupes de travail possibles et imaginables, jusqu'à temps que, effectivement, ce concept d'éducation du patient pénètre à tous les niveaux du système de santé national et international. Nous avons été très aidés, je dois dire, par notre collaboration avec le centre que dirige Alain Decache en Belgique et aussi le laboratoire et le centre d'éducation du patient de l'hôpital cantonal universitaire de Genève, qui était dirigé par Jean-Philippe Assal et maintenant par Alain Gollet. Parce qu'à trois, on était à l'époque tous les trois centres collaborateurs, on avait plus de poids, on était davantage audible. Et c'est comme ça d'ailleurs que l'OMS a pu faire ce premier rapport sur l'éducation thérapeutique. Voilà des premières journées de l'IPSEM, une consacrée à l'éducation de l'enfant patient à l'UNESCO, et puis une autre également à l'UNESCO sur les limites de l'éducation du patient, à savoir la préoccupation qu'on avait à cette époque, est-ce qu'on n'en met pas trop sur le dos du patient, est-ce qu'on ne lui en demande pas trop, est-ce qu'on ne le charge pas trop d'une certaine façon. Voilà, quelles sont les limites à sa responsabilisation. Bon, par ailleurs, il y a eu d'autres considérations qui nous ont aidés à sauter le pas, c'est-à-dire à sortir des murs de l'université pour faire quelque chose en dehors de celle-ci. Bon, nous appartenons à une fac qui est expérimentale. Hein. Bobigny a été une sorte de laboratoire pour beaucoup, beaucoup d'innovations qui aujourd'hui sont parfaitement validées, mais qui à l'époque nous ont valu une hostilité nationale. Entre autres, ça a été la première faculté qui a formé des infirmières. Hostilité nationale, qui a formé des médecins généralistes, une des premières en Europe, hostilité nationale, et puis qui a développé l'enseignement des médecines naturelles, alors là, c'était l'hystérie nationale. Bon. Donc c'est évident que si on arrivait avec le Made in Bobigny, avec l'éducation thérapeutique, on se faisait tirer dessus, mais immédiatement. Donc on s'est dit, il vaut mieux peut-être proposer ce concept en dehors de Bobigny, qu'à l'intérieur d'un diplôme universitaire de Bobigny, parce qu'immédiatement, c'est sûr que Créteil, Kremlin-Bicêtre, Bichat, tout ça, vous aurez tiré dessus, et on ne serait pas allé très loin. On voulait aller loin. Voilà. Donc, en fait, il fallait rendre cette approche neutre. Il ne fallait pas lui donner l'étiquette d'une faculté plus que d'une autre. Il fallait en faire, effectivement, une approche nationale, et c'est ça qui nous a motivés à créer l'association IPSEM. Puis enfin, la dernière chose, ça c'est un autre colloque à l'UNESCO, c'était à l'occasion de nos 10 ans. Voilà, au cas où on ne l'aurait pas compris, là c'est surligné. Oui, enfin, une autre motivation, c'est que ce qui n'est pas encore valable en France l'est depuis des décennies en Amérique du Nord, c'est-à-dire qu'un laboratoire de recherche très fréquemment crée, à côté de l'enceinte universitaire, une start-up, enfin une sorte de société ou d'entreprise d'innovation. Alors, bon, un certain nombre d'entre vous connaissent bien l'IPSEM, mais disons que l'IPSEM a été conçu dès le départ comme un organisme de formation qui devait le plus refléter les principes qu'il enseignait. C'est un peu ça l'idée, c'est-à-dire il faut que l'organisation elle-même soit cohérente avec ce qu'elle enseigne. Et alors comment se réalise cette cohérence? Ben, tout d'abord le respect des patients. Bon, alors il fallait que l'IPSEM concourt par l'intermédiaire des soignants qu'il forme à offrir aux patients des programmes éducatifs qui correspondent à leurs besoins personnels, donc à travers le diagnostic éducatif, et leurs besoins de sécurité. On a toujours été très attentifs à cette notion. Ça a été rappelé dans la journée que les maladies chroniques ne sont pas un long fleuve tranquille. Il y a des épisodes aigus, très graves, pour certains, et que les patients doivent y être préparés. C'est notre responsabilité. Et puis le respect des soignants. C'est-à-dire le respect des soignants à travers une méthodologie pédagogique qui n'allait pas les faire fusillés au moment où ils reviendraient dans leur service, mais qu'au contraire, ils puissent revenir avec quelque chose qui était, je dirais, acceptable par l'ensemble de la communauté des autres soignants. C'est-à-dire adapté à leur contexte d'exercice. Et comme nous pensions qu'un jour ou l'autre, cette pratique de santé serait reconnue, ce qui est maintenant le cas, eh bien, il fallait que ça ne soit pas simplement une formation à laquelle on vient, puis on repart, et puis voilà, on a une attestation de présence, un coup de tampon. Il fallait qu'il y ait une diplomation. Il fallait que cette diplomation soit fondée sur des comptes rendus d'expérience. Donc, on a, dès le départ, voulu créer des diplômes. Autre principe et autre valeur, ça ne sert à rien de dire que l'éducation thérapeutique est multiprofessionnelle et puis que c'est toujours la même catégorie de personnes qui enseignent l'éducation thérapeutique. Donc on a voulu que l'équipe d'animateurs associe des praticiens, parce que c'était important pour nous que ceux qui formeraient leurs collègues soient eux-mêmes des praticiens de l'éducation thérapeutique, mais multiprofessionnels de différents métiers de la santé. Il y a à l'IPSEM des médecins, des infirmières, des diététiciennes, des psychologues, des kinésithérapeutes, etc. Voilà, donc ça, ça c'est une équipe multiprofessionnelle. Il est parti, Trénard, t'as vu ? C'est au milieu. Voilà. Il fallait que cette pédagogie soit aussi, comme je le disais, conforme aux principes qu'elle énonce, c'est-à-dire que, en fait, les formations IPSEM sont une simulation de ce qui va se passer plus tard sur le terrain. En d'autres termes, nous n'avons jamais voulu enseigner la pédagogie pour elle-même, faire des cours, je dirais, théoriques et transversaux. Toujours, on a cherché à être contextualisé. Et si c'est des forums de formation sur le diabète, tous les exemples sont des exemples du diabète. Et si c'est sur l'asthme, tous les exemples sont sur l'asthme. De telle manière qu'au fond, effectivement, les formations IPSEM simulent, anticipent, en grande partie, ce qui va être fait avec les patients. Donc les soignants peuvent repartir avec une idée de ce qui est possible pour eux de faire. Et puis, bon, il fallait que cette formation soit de bon niveau, très exigeante. Et on passe beaucoup de temps à l'IPSEM. D'abord, les animateurs ont tous un référentiel commun. Ils ont des PowerPoint qui sont tous les mêmes, mais qu'ils peuvent adapter, dépendant les contextes où ils vont l'enseigner, où ils ont des transparents en commun. Mais on passe aussi énormément de temps à l'IPSEM dans des réunions de discussion et de mise au point. Et puis enfin, sans rentrer dans le détail du fonctionnement interne de l'IPSEM, c'est long de devenir animateur IPSEM, ça prend au moins 3 ans de compagnonnage avant de pouvoir être lâché devant un groupe de soignants. Voilà, oui, justement. Bon. L'IPSEM produit des ressources d'apprentissage, c'est une de ses activités, hein, qu'il s'agisse d'outils pédagogiques, nous en produisons beaucoup parce que nous pensons que ça accompagne très naturellement les formations. Et puis enfin, ça fait partie de nos valeurs, le partage permanent des savoirs. Je pense que le site IPSEM est un des sites les plus visités. C'est un des sites les mieux renseignés, sinon le mieux renseigné en France sur l'éducation thérapeutique. Et puis il y a toute cette documentation qu'on met aux participants. Voilà quelques exemples des outils que nous avons fabriqués, que nous fabriquons. La page de notre site. Bon, je conclue. Une idée, même si elle est bonne, même si elle rend service à la société, elle n'avance jamais seule. Voilà. Nous, on est contents, au bout de 20 ans, apparemment, elle est arrivée à officialisation, ça vous donne donc la vitesse de pénétration du concept. Il faut donc la porter. Il faut la soutenir, il faut la soulever. Et notre réflexion, c'est que innover, ça veut dire aussi se persuader qu'il y a peut-être un autre chemin, une autre position, un autre angle que ceux qui existent, qu'il existe d'autres voies que celles qui sont très encombrées. C'est peut-être risquer de contrarier des vérités établies et c'est proposer des voies alternes. Voilà. Donc on peut quand même considérer que la démarche que nous avons eue depuis 19 ans est quand même une démarche relativement innovative. Mais enfin, et ce sera ma dernière diapo, c'est que le succès, entre guillemets, bon, le fait qu'aujourd'hui, l'IPSEM, je lis mes notes, c'est 1000 personnes formées par an, 111 forums et 246 jours de formation. Par contre, ça, je pense que c'est totalement lié au talent des animateurs et des organisateurs qui font vivre l'association au quotidien. Merci.